cours de critique Dominique Philippe, le 4 mai 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
Je reviens sur les transcendentaux. Parce que c'est quand même très important au point de vue critique. Et là encore, vous voyez, c'est pour que vous compreniez mieux. On commençait, je vous l'ai dit, la scolastique par les transcendentaux. Donc on faisait cette confusion. Et ça, c'est très important de bien comprendre l'ordre génétique et l'ordre de sagesse. Et ceci, c'est propre à l'intelligence humaine. L'ordre génétique, le premier dans l'ordre génétique, c'est celui qui est plus proche de nous. On commence par l'expérience. C'est l'expérience qui est la plus proche de nous. L'expérience du travail, l'expérience de la responsabilité de nos actes. Et on commence cette philosophie par une philosophie humaine, une philanthropie, la conception de l'homme, l'exception de l'homme. On vient toujours à ces deux dimensions, le facere et la durée. Le faire et l'activité du travail la plus qualitative, c'est le travail de l'artiste. Tous les autres travaux, c'est du dégradé. Le travail en chaîne, c'est du dégradé par rapport au travail vraiment humain. Le travail humain, c'est le travail du cultivateur, du laboureur, il travaille la terre, il travaille le bois, le charpentier, et ça lui donne le sens de la matière. Le travail nous donne le sens de la matière. La matière résiste. Et on peut se mettre en colère devant la matière. C'est pas dangereux, parce qu'elle répond très bien. C'est-à-dire qu'elle se tait. Raboter et que vous tombez sur un nœud, vous êtes en colère, pas content de tomber ça, mais la matière se tait, et vous êtes obligé d'y aller. Donc on commence l'ordre génétique, ce qu'on connaît en premier lieu. Ce qu'on connaît en premier lieu, c'est l'activité artistique, le travail. Un gosse, quand il est au bord de la mer, il construit des châteaux, construit des maisons avec le sable. Il a ça en lui, il a besoin de faire ça. On a tous fait ça. On a tous pris de l'argile, on a essayé de faire... de mener quelque chose, c'était plus ou moins bien réussi, mais c'était, il y avait quelque chose. Le travail, l'activité morale, la responsabilité. Et comprendre qu'on est responsable de ses actes. L'activité politique communautaire. On fait ensemble. Travailler ensemble. Alors on a ça comme base et comme sommet, un sommet de réflexion critique, les transcendentaux. Et les transcendentaux sont comme, pour notre intelligence, quelque chose qui nous permettrait de juger toute philosophie. Quand vous lisez un philosophe moderne, demandez-vous que deviennent les transcendantaux. Il faut se familiariser avec les fondamentaux. Il faut que ça devienne la structure profonde de notre appréhension. Le concept d'être. Et le concept d'être a des modalités différentes. L'un. Le concept res, aliquid, vrai et bien. Il faut comprendre cela. Saint Thomas se résume au point de vue critique dans ce fait que il est arrivé à avoir un concept d'être qui est le concept du vrai, le concept du bien. Il n'y a pas de concept du bien sans le concept d'être. Il n'y a pas de concept du vrai sans le concept d'être. Il n'y a pas le concept d'un liquide, de res, d'un sans le concept d'être. Ce que je vous disais à propos des voies d'existence de Dieu, les cinq voies, que saint Thomas nous donne le point de vue critique. Saint Thomas fait ça très très fort, constamment. Et on ne voit pas que c'est un point de vue critique. Et on croit que c'est un point de vue de découverte immédiate. En fait, très grave erreur. Considérer que les concepts d'être, que les transcendantaux se découvrent tout de suite, c'est une erreur énorme. C'est le sommet. Quand vous avez une intelligence bien construite philosophiquement, vous avez en vous le concept d'être et les transcendantaux. Et les transcendantaux impliquent le concept d'être, mais en ajoutant quelque chose, un certain mode, certaine explicitation. Le concept du bien, c'est l'être en tant qu'il m'attire, en tant qu'il est appétible. Le concept du vrai, c'est l'être en tant qu'il est adéquat à la réalité. Le concept de aliquid, c'est la différence entre Albert le Grand et Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin ajoute le concept de aliquid. C'est très difficile de traduire aliquid. De verum et de bonum, ça se traduit très bien. Mais aliquid. Aliquid, c'est quelque chose. Aliquid, c'est quelque chose. Quelque chose en tant qu'il est lui-même et distinct des autres. Je crois que aliquid veut dire cela. Il est quelque chose et il est distinct des autres. Et parce qu'il est distinct des autres, il est un en lui-même. Et il est res. Alors, ces cinq transcendantaux, d'où viennent-ils? C'est ça que je voudrais montrer avec vous. D'où viennent-ils? C'est très bien, au point de vue critique, de concevoir ça. Je n'ai pas de concept de Dieu, mais j'ai un concept de l'être. J'ai un concept d'être qui se précise toujours. Mon concept d'être est le même que celui que j'avais il y a 10 ans, mais il est plus parfait. plus net. Et il se précise grâce aux transcendentaux. Les transcendentaux, directement, j'allais dire, se déversent dans l'être. C'est l'océan, l'être. Si je prends une image, tous ces ruisseaux, le bien, le vrai, la liquide, reste, tout ça, ça se déverse dans l'être. Directement, immédiatement. Mon concept d'être est gros des concepts des transcendentaux. Ils sont au même niveau. C'est pour ça que ce sont des modes, des explicitations du concept d'être. D'où viennent-ils ? Je n'ai pas de concept de Dieu. De Dieu, je ne peux que l'affirmer, l'existence. Oui. Et les idéalistes croient assez facilement qu'ils ont concept de l'être. Le père Garrigou-Lagrange affirme toujours le concept de Dieu. La scolastique l'affirmait. Et je ne peux pas avoir de concept de Dieu. Je ne peux pas définir Dieu. Je ne le définis pas. Je peux affirmer qu'il existe, mais pas plus. Et j'affirme qu'il existe par l'être. Il est l'être premier. Il est l'être entièrement acte. Il est l'être qui se sépare de tous les autres et qui en lui-même s'affirme à liquide. Il est l'être vrai en Dieu. Dieu est la vérité. Il est concept du bien et d'amour. Alors, je voudrais avec vous maintenant regarder l'origine des transcendentaux. Parce que les transcendentaux me font comprendre comment la philosophie a nécessairement des parties différentes, mais elle a une unité. La philosophie implique la philosophie du travail, du faturé, de la durée, de la vie politique, de la vie communautaire politique. Elle implique une anthropologie. Et ensuite, elle implique une recherche plus profonde de la vérité recherchée pour elle-même. La vérité recherchée pour elle-même au niveau du devenir et au niveau de l'être. Au niveau du devenir, qui peut être le vivant et l'être. Alors, d'où viennent mes transcendentaux ? Tout jugement présuppose une saisie de l'appréhension, tout jugement, ceci est. Quand je dis ceci est, jugement d'existence, il y a appréhension de ceci, appréhension de l'être, et j'unis les deux. Alors, d'où vient? Et ça, vous le verrez nulle part. Saint Thomas ne le dit jamais. Il y a beaucoup de choses que Saint Thomas ne dit pas. Parce que Saint Thomas n'a pas fait de philosophie pour elle-même. Le philosophe, c'est Aristote. Saint Thomas a été fidèle à la mission que Dieu lui demandait. De faire une théologie scientifique. Avant Saint Thomas, on n'a jamais dit théologie scientifique. Saint Thomas a précisé l'ordre qu'il fallait prendre pour une philosophie, une théologie scientifique. Mais Saint Thomas, sauf dans sa jeunesse, quand il avait 24 ans, Saint Thomas a écrit le De Ante Essentia. On présuppose qu'il avait 24 ans. Saint Thomas n'a jamais écrit de théologie. Le philosophe, pour lui, c'est Aristote. Donc, il a puisé dans Aristote. Mais il n'a pas fait de théologie. La scolastique, elle a essayé d'extraire de la pensée théologique de Saint Thomas une philosophie. Extraire de la pensée théologique de saint Thomas une philosophie. Vous comprenez bien que ça donne une philosophie qui est à l'intérieur de la théologie. Je ne peux pas extraire une philosophie d'une pensée théologique, parce que la pensée théologique est une et la pensée philosophique en théologie est complètement autre que la philosophie, puisqu'elle est une pensée théologique. Et ça, la Sorbonne l'a très bien compris. Vous comprenez que Descartes, pour comprendre Descartes, il faut voir, Descartes veut montrer qu'il y a des certitudes en dehors de la théologie. Et donc, qu'il existe une philosophie en dehors de la théologie. En ce sens-là, Descartes est anti-scolastique. Mais il y a quelque chose de grand et de beau de montrer que l'intelligence humaine est libre de la théologie. Que l'intelligence humaine peut se développer indépendamment de la théologie. C'est bien ce que le Saint-Père nous dit dans son encyclique Fides et Ratio, que la philosophie, elle est en dehors de la pensée théologique. Donc l'Église n'a pas de philosophie. Elle a une théologie, mais elle n'a pas de philosophie. Il faut trouver une philosophie qui soit libre de la foi, libre de la théologie, qui soit un développement de la pensée intellectuelle, considérée en elle-même et pouvant se structurer par elle-même. Il a fallu Descartes pour le faire. C'est le mérite de Descartes. Et à partir de Descartes, on a Kant, l'indépendance, et j'ai toujours le même désir de trouver une pensée philosophique libre. Et il y a le Saint-Père. Mais alors, le Saint-Père, lui, ajoute que seule une philosophie sapientielle peut servir aux théologiens. Donc, il affirme que seule une philosophie capable de découvrir l'existence de Dieu, il n'y a que cette philosophie-là qui peut servir aux théologiens, qui peut servir aux croyants. Faire une philosophie. Donc la première chose qu'on doit faire, si on veut se servir d'une philosophie, c'est de dire, cette philosophie est-elle capable par elle-même de prouver, de découvrir l'existence de Dieu ? si cette théologie n'est pas capable par elle-même de découvrir l'existence de Dieu, elle ne peut me servir à rien. Au point de vue de la foi. Et c'est très audacieux de la part du Saint-Père de faire ça. C'est très audacieux. Parce que tous les Hégéliens d'aujourd'hui qui font une nouvelle théologie à partir de Hegel ne se posent pas la question est-ce que Hegel, par sa philosophie, peut découvrir l'existence de Dieu ? Non. Hegel présuppose l'existence de Dieu. C'est une théologie. C'est une théologie luthérienne. Et c'est pour cela que quand le professeur Bourgeois est venu ici faire un cours sur Hegel, il a commencé son cours par dire « Hegel affirme « Je suis luthérien ». Et il commence sa philosophie par cette affirmation. Et donc, Luther est un croyant. Et Luther est tellement croyant que on ne peut prouver l'essence de Dieu, on ne peut pas prouver l'essence de Dieu par la pure intelligence. Il faut la foi. Il est fidéiste. Et à partir de là, on comprend que la philosophie de Hegel n'est pas une philosophie, mais une théologie, et une théologie luthérienne. On ne peut pas redécouvrir une philosophie à partir d'une pensée théologique. Parce que la pensée théologique se sert de la philosophie, mais elle se sert de la philosophie en mettant entre parenthèses l'exister, le jugement d'existence, parce qu'il y a un nouveau jugement d'existence qui est le jugement de foi. Et donc, chercher une philosophie à partir d'une théologie, c'est oublier le point de départ de la philosophie. Parce que le point de départ de la philosophie est complètement dépassé par le point de départ du croyant et du théologien. C'est pour ça qu'on ne peut pas, en prenant la pensée théologique de saint Thomas, découvrir sa philosophie. Et ça, c'est très important. Et pratiquement, ça n'a pas été vu chez les scolastiques. Ils ont essayé de construire une philosophie indépendamment de la première affirmation « ceci est ». Le philosophe cherche à découvrir ce qu'est l'homme. L'homme qui existe, lui. Donc il part du fil d'un jugement d'existence. Et la philosophie est toujours en dépendance du jugement d'existence. Donc je comprends, je vous l'ai déjà dit, et je le dis maintenant, vous allez mieux voir, pourquoi dans le jury, quand le père Marie-Dominique Gouthière a passé sa thèse, pourquoi un des membres du jury, qui est un ex-jésuite, il a quitté les jésuites, il a trouvé une place pour l'enseignement de la philo, lui pose la question, Qu'est-ce que vous voulez dire en parlant du jugement d'existence? Parce qu'il était enfermé dans un scolastique. Dans un scolastique, il n'y a pas le jugement d'existence. Vous partez tout de suite des notions. Et les notions les plus parfaites, c'est les notions transcendantales. Or, prendre les transcendantaux comme le début d'une philosophie et non pas comme le fruit d'une critique, c'est très dangereux parce que c'est perdre le réalisme de la philosophie. Et alors à ce moment-là, on se met à batailler sur les concepts. C'est-à-dire sur les notions que nous possédons en nous, mais on oublie le point de départ, l'expérience. Alors, acceptant les transcendantaux comme la donnée suprême de la critique. Vous ne pouvez rien trouver de plus grand au point de vue critique que les transcendantaux. C'est la grille, en quelque sorte, d'une intelligence aristotélicienne. D'une intelligence qui étudie le réel, l'homme. C'est très intéressant de regarder comment, dans la définition de l'homme, vous trouvez tous les transcendantaux. La définition de la personne humaine. Quand vous voulez comprendre ce qu'est la personne humaine, les transcendantaux sont présents. Alors, d'où viennent les transcendantaux? Les transcendantaux viennent comme une réflexion critique sur la saisie des principes ultimes. Quels sont les principes ultimes? La substance. La substance est saisie comme un principe. Ce qui est premier dans l'analyse de l'être au point de vue de la causalité formelle. La substance, c'est ce qui détermine l'être dans ce qu'il a de tout à fait fondamental. C'est la détermination première de ce qui est en tant qu'être. C'est ça, la substance. La substance, je sais qui elle est en moi. C'est mon âme. Et mon âme en moi, c'est source de toutes les déterminations. Toutes les déterminations proviennent de mon âme. Si je dis mon intelligence cherche la vérité, ma volonté aime mon ami, j'ai en moi cette détermination tout à fait particulière de l'intelligence et de la volonté. Et la volonté me montre la détermination première de l'être. Par le fait même, la détermination première de l'être, c'est res. Ça vient d'Avicenne, res. Aristote dirait les déterminations substantielles. Vous avez un concept de la substance. Et c'est res, la détermination dans l'être. Vous saisissez l'acte d'être. L'acte d'être, je la saisis dans le principe dans le principe ultime, dernier, où je saisis l'être en acte. L'être en acte est premier par rapport à toutes les autres modalités de l'être. L'être en acte, c'est aliquid. C'est aliquid. Alors, le vrai et le bien, c'est facile. C'est l'éthique et la philosophie du travail. Je retrouve donc les concepts transcendantaux à partir des jugements ultimes. En découvrant la substance, je découvre ce qui détermine fondamentalement l'être. Et ce que je saisis en appelant res, en précisant saisissant le principe de finalité, je saisis l'être en tant que déterminé en lui-même d'une façon ultime, l'être en acte et séparé des autres, donc aliquid. Je saisis vrai et bien. Et je saisis l'un comme propriété de l'être. Voyez, je vois que par voie inductive, je saisis la substance, je saisis l'être en acte, je saisis le vrai et le bien à travers des principes. Et j'extrais de ces principes l'appréhension. Et j'ai mes transcendantaux. Donc je vois que mes transcendantaux expriment une philosophie de l'être qui saisit les principes propres de ce qui est être en tant qu'être. La métaphysique, la substance est aliquid. Je saisis comment je saisis à partir de ma métaphysique l'éthique, la philosophie, donc le bien. Je saisis la philosophie de l'art, le travail. Et je parle là mes cinq transcendantaux. Oui. C'est intéressant de voir que les transcendantaux présupposent la saisie inductive de la substance, de l'acte. La substance de l'acte, le vrai et le bien. Et mes cinq transcendantaux sont les résultats critiques ultimes de chacun de ces principes. Pour saisir vraiment aliquid, il faut saisir l'être en acte dans les principes. Ceci me permet de comprendre que les transcendantaux sont une position critique ultime.